Ce matin, c'est un peu, voilà, c'est un peu. J'avais vraiment à cœur qu'on se laisse conduire pour voir ce que le Seigneur voulait faire. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prie. Et juste avant de prier, je dis à ceux qui étaient à Toulouse, si vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur ce matin de partager, ben, juste après avoir prié, je vous donne la parole. Et puis moi, je compléterai ensuite avec ce que j'ai rassemblé aussi. Le but de ce matin, c'était aussi de vous faire un retour de ce qu'on a vécu dans notre famille d'église pour vraiment que toute l'église soit associée à ce qu'on a vécu. On fait comme ça, les amis? Eh bien, Seigneur, vraiment, merci pour ta grâce qui est représentée par cette table au milieu de nous, Seigneur. Ta grâce qui est que tu as incarnée en mourant sur le bois de la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons manger, Seigneur, ce pain, boire ce vin qui représente, qui incarne concrètement, Seigneur, ton sacrifice. Et nous pouvons dire que c'est central dans cette pièce. Mais au-delà que ce soit central dans cette pièce, c'est central dans nos vies, c'est central dans nos cœurs, Seigneur. Ce n'est pas de la religion, c'est vraiment ce sur quoi nous voulons fonder nos vies, Seigneur. Seigneur, que ta grâce encore soit manifestée parmi nous ce matin. Amen. Alors, les Toulousains de ces 2 derniers jours-là, est-ce que certains vous étiez prévenus que j'allais faire ça, donc c'est le moment de pas être surpris. Mais vous n'êtes pas obligés, hein. C'est juste, voilà, si vous le sentez, venez dire un petit mot de ce qui vous a marqué. Ah, merci Laurence.
Je me lance. Merci. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est un honneur d'avoir pu participer à ces sessions à Toulouse. Et ce que j'ai retenu, c'est que vraiment le Seigneur, il recherche des cœurs d'adorateurs en esprit et en vérité. Des cœurs lavés, des cœurs purifiés en esprit et en vérité. Pour que ça soit une bonne odeur d'adoration à la croix, au trône de grâce. Et vraiment, quand on loue, que nos pensées, souvent, des fois, c'est des champs de bataille, nos pensées, mais que nos pensées soient purifiées. Purifiées par, tout simplement par son sang, par son corps, purifiées. Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'élever nos louanges, d'élever notre adoration. Parce que c'est une bonne odeur au trône de grâce. Voilà, en quelques temps.
Amen. Moi, je continue. Merci pour cette transition. Que moi, ce qui m'a marqué, c'est Fabienne qui partageait que parfois on veut louer le Seigneur, mais quand nos cœurs ne sont pas guéris et ne sont pas prêts et sont endommagés et souffrent parfois, c'est dur. Et moi, vous me connaissez, j'aurais plus un tempérament à dire allez, louons le Seigneur ou quoi. Mais des fois, on est dans des saisons et dans des moments où on est meurtri et en fait, on n'arrive pas. On aimerait notre pensée dire allez, ok, je vais louer le Seigneur comme ce matin, mais c'est comme si si tes pensées veulent louer le Seigneur, mais ton cœur n'y arrive pas parce qu'il y a quelque chose qui est blessé. Et parfois, ça peut venir par un manque de pardon. Et j'aimerais nous encourager parce qu'on est une communauté, donc on est un peuple. Vous savez que le premier A de notre vision, c'est adorer Dieu. Et j'ai tellement à cœur, en tant que responsable de la louange, qu'on puisse louer le Seigneur ensemble. Et peut-être que si ton cœur est meurtri, si tu es blessé, demande au Saint-Esprit de venir guérir ton cœur afin que tu arrive afin que tu aies cette capacité de louer le Seigneur. Et si tu as besoin de parler, si tu as besoin de prière, juste vous dire qu'on est là aussi pour pouvoir prier pour vous. Et peut-être que le Seigneur veut te toucher ce matin et te dire, as-tu besoin de pardonner à quelqu'un? Le non-pardon peut bloquer, vous savez, la guérison, mais peut bloquer aussi ce cœur pour le louer, parce qu'on est, en fait, on a de la haine, on a des rancœurs, de l'amertume contre des personnes, et tout ça bloque l'Esprit du Seigneur en nous. Alors ne nous privons pas de la grâce de Dieu, comme le dit le Seigneur. Et si Dieu nous met quelqu'un que nous devons pardonner, soit dans notre cœur ou peut-être aller voir, laissons-nous toucher par le Saint-Esprit afin que nous soyons une communauté qui l'adore, comme l'a dit Laurence, en esprit et en vérité.
Amen. Moi, je voudrais rajouter à ça qu'une... L'encouragement, c'est de vous dire ne croyons jamais qu'on est arrivé au bout du chemin. On est au bout du chemin de la guérison, au bout de toute délivrance ou quoi que ce soit, de dire bon, bah, ça y est, je crois que là, j'ai atteint le top et je peux enfin louer Dieu de tout mon cœur. Non, il y aura toujours quelque chose. Dieu nous encourage toujours à aller chercher plus profond et de dire mais est-ce que ton sacrifice il est plein et entier? Est-ce que tu peux me donner 100% de qui tu es Non, il y aura toujours besoin d'aller chercher parce que on a une nature qui est adamique, qui est pécheresse, et ça, on ne peut pas s'en séparer, et on a besoin de faire du nettoyage, on a besoin d'aller toujours plus loin. Moi, ce que j'ai retenu de ce week-end et que je vais vous partager, c'est que vous avez devant vous un autel de louange. Et l'autel, il n'est pas ici, c'est pas « je viens le dimanche à l'autel de Dieu pour offrir mon sacrifice de louange, pour offrir ce que j'ai de meilleur, et puis je reviendrai dimanche prochain ». Je reviendrai à cet autel. On en parle partout de l'autel dans la Bible. Les prophètes ont dressé des autels pour offrir des sacrifices à Dieu à différents endroits. Cet autel, ce n'est pas ici. Cet autel, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Et on peut, partout où on est, dans nos travails, dans nos familles, dans les différents endroits qu'on représente, être cet autel et offrir un sacrifice de louange là où on est. Et là où on élève un autel de louange, un autel d'adoration, Dieu, il descend. Le feu de Dieu descend et l'espace qui est autour de vous devient saint. Donc voilà, je vous laisse avec ça.
Très succinctement, Mathieu, je crois que tu vas pas prêcher en fait. du coup, juste pour vous dire, le thème, c'était la guerre des autels, donc AUTELS. Et nous, en y allant, dans la voiture, on n'était pas forcément hyper inspirés par le thème. Enfin, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont vraiment défini ce qu'était un autel. Donc ça, c'était dans les premières sessions. Il y a aussi, on a pu voir à quel point il y avait beaucoup d'autels qui étaient consacrés à Satan, en France. Donc ça aussi, c'était assez lisible. Et c'était limite impressionnant de voir à quel point il y a des gens qui sont vraiment en réflexion pour faire venir les puissances du mal, concrètement. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant aussi. Et puis, comme a dit Nicolas, nous sommes chacun des autels. Et puis moi, ce que j'ai vraiment un truc qui m'a vraiment arrêté, parce que ça va en lien avec ce qu'on recherche justement dans l'équipe d'intercession, c'est que elle disait, qu'une des oratrices a dit, ne déclenchons pas le feu nous-mêmes, en fait. Élie, quand il a fait son autel, il a mis de l'eau, il a fait tout pour que en fait, le feu ne puisse pas démarrer naturellement. Voyez, c'est le feu de Dieu qui est descendu. Et elle disait, des fois, on peut être tenté de craquer une petite allumette et de démarrer le feu nous-mêmes. Mais du coup, c'est plus le feu de Dieu, c'est plus le feu du Saint-Esprit. Et que chacun dans nos vies, on puisse attendre vraiment l'action du Saint-Esprit et pas être tenté de vouloir faire par nous-mêmes les choses, mais de vraiment attendre que le Saint-Esprit, ça peut être pour une direction, ça peut être pour une guérison, ça peut être, mais ne faisons pas semblant, attendons jusqu'à ce que le feu vienne vraiment du ciel et embrase l'autel. Voilà, et nous sommes ces autels. Ça...
Merci Jonathan, c'est incroyable les liens qui se font, parce que c'est tout à fait ça. Moi, c'était dans cette continuité, on a reçu plein de choses, c'est en train de redescendre tout doucement, mais une des choses moi, qui m'a marqué, c'est le fait de cultiver la présence du Seigneur dans nos vies, voilà, et de faire de la place. Et il y a cette parole que vous connaissez tous, on l'a déjà entendue, d'élargir, élargis l'espace de ta tente, élargis l'espace de ta maison. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour chacun de nous aujourd'hui? Et moi, je me suis rendu compte à quel point des fois on est tellement étriqué. Il y a tellement de choses dans nos agendas, tellement de choses dans notre quotidien, dans notre vie, ou même dans le passé, des choses qui remontent, qui nous étouffent, qui nous étriquent, et finalement, on laisse une infime place à Jésus, peut-être le dimanche matin ou de temps en temps, dans nos réunions la semaine. Mais le Seigneur, vraiment, c'était comme un encouragement à « fais-moi de la place, élargis vraiment tout l'espace, je veux venir, je veux remplir vraiment ta maison ». Et c'est vraiment au sens propre et figuré. Donc faisons vraiment de la place et cultivons vraiment sa présence avant, comme tu disais Jonathan, de prendre une décision, avant de s'engager dans une action, dans un travail, dans une direction. Seigneur, je veux cultiver ta présence avant toute chose. Je veux demeurer en toi et que tes paroles demeurent en moi. Et alors, je me lèverai et j'irai où tu veux que j'aille. Amen.
Merci les amis, et vraiment, moi personnellement j'ai pris énormément de notes, parce que tout ce qui vient d'être partagé là, c'est dit en 10 secondes, en 2 minutes, etc. Mais c'est vraiment lourd et puissant, ce qui a été partagé. C'est pas rien de se réunir en famille d'église comme ça. Il y avait des gens de, on était très peu nombreux, hein, mais il y avait des gens quand même de plusieurs parties de la France. Et je suis émerveillé de voir. Je vous dirai après, juste après. Moi, je suis parti là-bas dans des conditions personnelles un peu difficiles. J'étais pas très bien. C'était une période un peu difficile. Mais je suis émerveillé de voir comme Dieu nous rassemble. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit assemblés. Là où l'ennemi veut nous isoler, l'ennemi veut t'isoler, l'ennemi veut te faire croire que tu es tout seul dans ce que tu vis, que tu es tout seul à expérimenter ce que tu vis, que les autres ne te comprennent pas, ou que personne ne sait, ou que personne ne peut comprendre ce que tu vis. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Alors que Dieu, c'est un bon papa, le père d'une grande famille, et il aime que sa famille soit réunie. Et là, on était au milieu de personnes vraiment voilà, diverses. On a aussi pu être un petit peu repris. C'est ça qui est bien dans la famille, c'est qu'il y a des parents spirituels. Et même, on a été un peu repris dans qu'est-ce que c'est. Je n'ai pas le temps ce matin de tout vous dire, je vais juste deux, trois aspects que je vais compléter ce que mes amis ont dit, mais qu'est-ce que c'est que la louange, qu'est-ce que c'est que l'adoration, et combien dans notre époque on peut travestir ça, en faire quelque chose de commercial, d'esthétique, de, alors que c'est un ministère. Vous connaissez très bien ce verset dans l'Apocalypse, Apocalypse 1. Il nous aime, verset 5, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Il y a vraiment une lourdeur dans ces mots-là. Dieu a fait de nous un royaume de prêtres. Quand vous lisez, en ce moment, vous savez, je lis l'Ancien Testament, le début de l'Ancien Testament, et justement, je suis vraiment dans tous ces moments-là où Dieu explique, ordonne la manière dont le temple fonctionnait, d'abord le tabernacle, et ensuite le temple à Jérusalem. Et il y a vraiment un ordre des choses, et il y a vraiment une fonction particulière pour chaque objet. Et tout est pour le but de la louange, de la gloire de Dieu. Et même quand vous voyez comment le tabernacle et le temple sont faits, la sainteté, ben pour ceux qui ne connaissaient pas, moi quand j'étais enfant, ils avaient fait une exposition du tabernacle, pour ceux qui avaient connu ça à l'époque, où tu pouvais, en grandeur nature en fait, et tu pouvais rentrer vraiment dans le tabernacle et voir, et tout était expliqué. Et c'est fou de se rendre compte. Nous aujourd'hui on peut galvauder cet aspect qu'on a accès à la présence de Dieu depuis que Jésus est mort, le voile a été déchiré, mais à l'époque c'était vraiment matérialisé de manière très concrète, à tel point que le souverain sacrificateur seulement une fois par an pouvait rapidement faire incursion dans le lieu très saint. Et encore, il devait mettre des parfums avant, vous savez, sur le propitiatoire, sur cet autel qui était dans le lieu très saint, pour que ça génère une fumée qui mettait une séparation encore entre lui et la sainteté de Dieu, parce qu'on ne pouvait pas subsister devant la sainteté de Dieu et rester vivant, quoi. On mourait instantanément. Il y avait, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, une corde carrément qui était attachée au pied, ou je ne sais pas où, du souverain sacrificateur, de manière à ce que si au bout de plusieurs heures, de 24 heures, il ne ressortait plus, on puisse le tirer son corps en dehors du lieu très saint. Et la sainteté de Dieu, c'est vraiment quelque chose à prendre avec attention. Et tout ça, ce n'est pas pour amener une lourdeur, ce n'est pas pour amener une condamnation. Il y a une lourdeur dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce que veut dire le mot gloire d'ailleurs. C'est un poids, c'est une lourdeur, mais c'est une bonne lourdeur qui nous rend dans la crainte de Dieu, pas dans la peur de Dieu. Dieu est un bon papa, mais il y a une saine crainte de Dieu. Et c'est vrai, dans notre époque aujourd'hui, tout est fait pour nous faire relativiser ça, nous faire galvauder ça et oublier à quel point Dieu est saint et à quel point il nous dit « Soyez saints, comme moi je suis saint, vous êtes saints, soyez saints ». C'est son appel pour nous. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. C'est Jésus, le roi, le prêtre. C'était son Enfin, c'est son appel, c'est son rôle, c'est sa nature, et il fait de nous, en tant que ses frères et sœurs, eh bien, la même chose. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on était dans cette famille, on était un peu repris là-dessus. C'est pour ça que c'était... Quand Elodie nous a accueillis en début de réunion et qu'elle dit « si vous êtes là pour vous faire plaisir, vous pouvez repartir chez vous », c'est vrai que ça peut paraître un peu cash, mais on a besoin d'être repris. On a besoin, et ce n'est pas un manque d'amour, au contraire, des parents reprennent leurs enfants par amour. Par amour, des parents reprennent leurs enfants. Et je crois que ce qu'on a vécu, le petit groupe qu'on était là, il y avait aussi des gens de Grenoble, des gens de Gap, on a été aussi repris. Et c'est pour ça qu'on vous transmet ça. Nous ayant été repris, on vous transmet ça pour qu'ensemble, en Église, on puisse saisir ce message, que ça puisse nous aider à grandir et à progresser dans notre appel. L'appel de Dieu pour nous individuellement, mais aussi en tant que communauté. Et il y a, comme je vous disais, moi je suis parti là-bas, voilà, c'était des jours un peu pas évidents. On essaye d'être authentiques les uns avec les autres, et j'étais pas très en forme, j'avais pas trop le moral, et je me suis retrouvé dans ce lieu. Et voilà, comme disait John, la guerre des hôtels, ça fait très spirituel, très... Et je me suis dit, mais j'avais vraiment à cœur quand même de vivre des choses. Ces enseignements étaient merveilleux. On entend très rarement des enseignements sur ce genre de thème. C'est pour ça qu'on va vous transmettre tout ça. Mais moi, c'est surtout le deuxième jour que j'ai vécu personnellement quelque chose de très fort. Je n'étais pas là pour me faire du bien, mais quand même j'avais soif, voilà, de rencontrer Dieu personnellement. Et puis de ce que je vous partage ce matin, je me dis autant que ce soit aussi ce que j'ai réellement vécu en tant que Mathieu. Des fois on peut projeter des choses sur les responsables de l'église. Moi oui j'aime être leader, vous savez, Dieu a fait de moi ça, j'y peux rien, c'est comme ça, mais je suis un homme comme tout le monde, et du coup j'ai mes combats, j'ai besoin vraiment de Dieu au quotidien comme chacun de nous. Et du coup, dans ce mal-être que j'avais, voilà, j'étais à un moment donné, on s'est retrouvé dans un temps de louange. On était tellement enseignés sur qu'est-ce que c'est que l'adoration, qu'est-ce que c'est que ce parfum, qu'est-ce que c'est que d'être un autel soi-même. Vous savez, il y a ce verset qui dit qu'on est une habitation de Dieu, et on est un autel. Et du coup, alors qu'on était dans ce temps de prière, de louange, je me suis retrouvé à genoux par terre. C'est une bonne position quand on se soumet à Dieu. On dit que Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, mais c'est aussi notre Seigneur. On a souvent plus de mal avec le deuxième aspect. Que Dieu soit ton Seigneur, ça veut dire que si entre toi et lui il y a un désaccord, c'est sûrement lui qui a raison et pas toi. Et ça, pareil, dans notre âge aujourd'hui, c'est plus difficile pour nous. Et alors que je me suis retrouvé vraiment à genoux comme ça, j'étais à genoux, mais je sais pas pourquoi, instinctivement, j'étais vraiment recroquevillé sur moi. Vous voyez, à genoux, mais vraiment recroquevillé. Et j'étais dans cette posture d'adoration, vraiment d'honneur, de soumission à Dieu. Et d'un coup, ça m'est venu, alors que j'étais dans cette position, j'ai réalisé que j'étais dans la position du fœtus. Et d'un coup, ça m'a percuté, j'ai dit, mais c'est fou. Et j'ai vu cette image, vous voyez, quand un bébé est encore dans le ventre de la maman, dans l'utérus, il est dans cette position. Et après coup, j'ai regardé des images de ça, et il est vraiment recroquevillé comme ça. Et il est dans le ventre de la maman, voilà. Et alors que moi j'étais dans ce temps d'adoration, je me suis vraiment vu dans une posture d'adoration qui était en même temps une position de petit bébé, et je me sentais vraiment dans le sein du Père, du bon Père. Et oh là là, j'ai vraiment été visité à nouveau par l'amour de Dieu en tant que papa. J'étais pas venu nécessairement, enfin je savais pas trop à quoi m'attendre en venant à ces deux jours. Mais de me voir, c'est comme si je me voyais de l'extérieur, blotti comme ça, dans une posture d'adoration, enfant, bébé, mais enfant de Dieu, adoration. ça m'a... Waouh, après j'ai senti une libération, vraiment une libération. J'ai pu, après changer de position, j'ai senti une nouvelle liberté et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et je ne sais plus lequel de mes amis qui parlait juste avant expliquait que c'était Nico qui disait que... Et c'est fou, je racontais à Emmanuel parce que juste avant de partir, j'étais pas très bien et tout. Je disais, mais GPN, j'ai l'impression de faire que ça. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Enfin, il y a plein de trucs qui existent. J'ai pas tout fait, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, tu dis, j'en ai marre de faire de la relation d'aide, des sozos, des trucs, des GPN. Et on arrive, et Fabienne, encore une fois, rôle de maman spirituelle, vraiment, qui dit, non, mais te fais pas d'illusions, t'auras jamais fini. En fait, c'est un travail continu que d'être renouvelé dans l'amour du Père. C'est un travail continu que d'être guéri. Et en fait, c'est pas que... des fois, ça peut paraître du coup un peu, oh là là, j'y arriverai jamais, tout. Mais c'est pas ça. C'est qu'on a une éternité pour découvrir et d'être guéri et transformé par l'amour du Père. Et c'est hyper beau, en fait. C'est hyper positif. Son amour est tellement grand. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et nous, des fois, on est un peu plus lent à nous ouvrir et à recevoir tout ça. Des fois, on n'est pas prêt, comme disait Olivier. Donc, tout ça pour dire que... Il y a vraiment un lien entre notre identité d'adorateur et notre identité d'enfant. Et que c'est ça l'adoration en esprit, en vérité. C'est ça l'authenticité, c'est de tomber les masques et d'oser être vrai devant papa. Et d'oser, et de cultiver ça aussi, de cultiver cette posture, cette nature d'enfant et d'adorateur. Donc merci Seigneur. Merci Seigneur, excusez-moi. Mais vous savez quoi, je vous propose, si ça vous parle, juste d'incliner vos têtes un instant. Et de qu'on puisse juste, je rajouterai peut-être quelques mots, mais. Juste déjà sur ça, sur cette révélation, sur ce, enfin c'est pas quelque chose de nouveau, mais par rapport à notre cœur, par rapport à notre cœur d'enfant de Dieu, par rapport à ce cœur guéri par Dieu, ce cœur d'adorateur guéri par Dieu, qu'on puisse chacun juste un instant se mettre devant Dieu, c'est quelque chose qu'il faut qu'on poursuive encore tout le temps, mais déjà maintenant, alors qu'on évoque ça, Seigneur vraiment. Merci, tu es notre Seigneur, tu es notre Papa, notre bon Père. Et tu sais ce dont chacun de tes enfants a besoin, là, maintenant, tout de suite. Et Seigneur, toi, tu sais les choses par lesquelles nous passons aujourd'hui, la période de vie dans laquelle on est, nos défis, nos souffrances peut-être, nos blessures. Toi, tu les connais, Seigneur. Et tu es rempli d'amour pour chacun de tes enfants. Tu as des trésors illimités d'amour, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, continuer de rejoindre chacun de nous maintenant. Et je te prie, Seigneur, je veux briser tout esprit de peur maintenant. Et que même si on a vécu des choses traumatisantes avec nos pères terrestres ce matin, on ose laisser notre Papa du ciel venir toucher notre cœur. Parce que toi, tu n'es pas humain, tu es un père parfait et tu n'as que du bon pour chacun de tes enfants. Viens encore toucher, viens encore guérir, viens encore. Je voyais comme si Dieu posait maintenant sa main sur ton cœur. Je voyais un cœur comme l'organe du cœur qu'on a et le Seigneur posait sa main comme ça. Et je voyais que vraiment il y avait quelque chose qui se passait, une guérison qui venait. Seigneur, merci pour la guérison que tu amènes à chacun de nos cœurs. Merci papa, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur. Amen Jésus, merci papa. Il y a cette parole qui a été donnée aussi que j'ai trouvée tellement forte alors qu'on est toujours recueilli dans la présence de Dieu. Vous savez, Marie qui verse le parfum sur les pieds de Jésus qui essuie ses pieds avec ses cheveux. Et du coup, il y avait cette explication de... Pareil, c'est des choses dont on ne se rend pas compte. Nous, on se parfume parfois avec des parfums qu'on paye un prix fou. Et en fait, ça sent un petit peu, mais pas tant que ça. Mais vraiment, les parfums qui étaient utilisés à l'époque, il y avait une puissance olfactive, je ne sais pas comment dire, qui était incroyable. Et c'était vraiment du pur, quoi. Et c'était ces parfums qui étaient utilisés justement dans le temple pour faire monter les parfums jour et nuit, nuit et jour sur l'autel des parfums. Il y avait cet autel des parfums, cet autel d'or qui servait à faire brûler ces parfums. Et en fait, il y avait ce parallèle entre ces parfums qui brûlaient et ce parfum qui a été répandu sur les pieds de Jésus juste avant sa crucifixion. C'était quelques heures avant sa crucifixion. Et en fait, l'odeur de ces parfums était tellement forte que, un peu comme dans l'ancienne alliance, toute la ville, tout le camp sentait le parfum qui brûlait en continu, parce que c'était tellement fort, ça se sentait dans tout le camp. Il y avait aussi le parfum du sang des animaux qui étaient sacrifiés, qu'on pouvait sentir de partout. Et tout le peuple sentait ça, il vivait avec ces odeurs. Et vraiment, ça m'a percuté le fait que ce parfum d'adoration que Marie donne à Jésus et qu'elle est raillée, elle est moquée par les pharisiens qui sont là. Mais au moment où Jésus monte sur la croix, sur l'autel ultime, la croix de Jésus, il y a encore l'odeur du parfum de Marie qui est sur lui. Et oui, il y a la mort, il y a le sang de Jésus qui est versé, mais en même temps, il y a l'odeur du parfum qui a été mis sur lui, qui est sacrifié pour nous. Et vraiment, ça m'a percuté, encore une fois, cette sainteté de quand on offre, comme Marie qui a répandu son cœur, ses larmes sur les pieds de Jésus, quand on offre une adoration vraiment pure comme ça, de tout notre cœur, pas d'un cœur partagé, pas d'un cœur qui veut en garder un peu pour soi, pas d'un cœur qui veut pas que Jésus soit totalement Seigneur. Et on est tous en chemin là-dedans, les amis. Attention, je ne suis pas meilleur que vous. Mais il y a vraiment cet appel à offrir un sacrifice à Dieu qui nous coûte quelque chose et qui n'est pas partagé. Et là, la vie peut couler. Comme suite à ce sacrifice de Jésus, la vie a été manifestée à tel point que les tombeaux se sont ouverts. D'un coup, la vie, le voile du temple a été déchiré, la présence de Dieu a envahi le monde comme ça, les tombeaux se sont ouverts. D'un coup, la puissance de vie, la gloire de Dieu n'est plus limitée. Mais ça vient suite au sacrifice de Jésus, mais aussi au sacrifice de cette Marie qui sacrifie ce parfum d'un grand prix, qui coûtait beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, gaspillé sur les pieds de Jésus. Et vraiment, ça nous enseigne sur qu'est-ce qu'on gaspille pour Jésus. Quel temps. Et ça m'émeut parce que je suis loin d'être arrivé. Et combien de fois on gaspille pour des choses qui ne valent pas la peine. Mais il y a cet enseignement d'amener une adoration qui gaspille sur Jésus. Et oui, ça nous amène à la repentance de dire « Mais pardon Seigneur pour tout ce que je gaspille dans des choses qui ne valent pas la peine. Et toi, tu m'invites à gaspiller pour toi, sur l'autel que tu es Jésus. Et sur l'autel ensuite que chacun de nous est, comme Nicolas dit, nous sommes des autels. Ça, c'était vraiment ce thème. Et nous sommes des autels ambulants. Amen. Merci Seigneur. On a besoin d'être repris, on a besoin de se repentir. Vraiment, la repentance, ça veut dire changer, ça ne veut pas dire être puni ou quoi. La repentance, c'est changer profondément. On a besoin de changer, on a besoin de faire monter vers Dieu une adoration qui est pure, qui est pure. Et bien sûr, c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés. Et c'est grâce à lui, en fait. En fait, on peut faire monter une adoration pure parce que Jésus nous a purifiés par son sang. Et c'est ce que dit ce verset, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, parce qu'il nous a purifiés par son sang, je peux, avec Jésus, avec l'aide de Jésus, je peux faire monter une adoration pure pour le Père. Et ensuite, du coup, voir la vie qui est manifestée. Il y avait cette idée qui était partagée par Nicolas qui enseignait le premier jour. Je ne vais pas relire tous les passages bibliques parce que c'est l'heure, mais il y a Noé qui fait le premier autel dans la Bible, c'est Noé après l'arche et tout. Et ensuite Abraham fait beaucoup d'autels, vous savez, il y a cet autel peut-être qui est peut-être l'autel par excellence, enfin c'est dur de les classer, mais il y a le sacrifice de son fils Isaac, le presque sacrifice de son fils Isaac qui est vraiment cet autel incroyable, cette figure, cette préfiguration de ce que Jésus va faire. Et puis il y a cet autel, le premier fait la même chose parce qu'au moment où Dieu pourvoit au sacrifice lui-même par cet agneau, ça, c'est ça aussi qui permet à la famille d'Abraham de se multiplier, ça libère la vie. Mais il y a aussi cet autre autel ensuite, Jacob, Israël, le Jacob, vraiment de qui le peuple sort, quoi. Il est dans le désert, il est en train de parcourir Canaan, le futur pays d'Israël. Et il y a, vous savez, il fait ce rêve. Et là, il y a cette échelle avec les anges qui montent et qui descendent, et le Père lui-même qui est là. Et ensuite, il se réveille de ce rêve et il dit, mais ce lieu est une terre sainte, et il appelle ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et vraiment, il y avait cette idée dans un autel. Qu'est-ce que c'est un autel ? Et c'est pour ça, parce que tout ça, ça peut être très centré sur nous, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est la fonction ? Une des fonctions de l'autel, c'est que c'est, oui, le lieu où la présence de Dieu est là. C'est un portail. Un autel, c'est un portail. Donc on dit chacun de nous, nous sommes des autels, mais chacun de nous, nous sommes des portails en fait. Nous sommes des portails pour que le ciel vienne sur la terre. C'est ce qui se passe concrètement avec ces anges qui montent et qui descendent. Le ciel est là, le ciel est en vision, un peu comme quand Étienne est martyr. Il dit « je vois le ciel ouvert, le ciel est présent ». Quand il est dit que repentez-vous, le royaume des cieux est proche, c'est qu'il est là, il est présent, il est palpable. Le ciel, le royaume des cieux, c'est la même chose. Et vraiment, il y a cette idée que c'est un portail. Et que vu que nous sommes des autels, nous sommes des portails. Nous sommes, alors, surtout, j'ai envie de dire, quand on est en communion avec Dieu, des fois, parce qu'on peut être des portails, malheureusement, du camp d'en face aussi. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on ne fait pas gaffe, quand on n'est pas dans cette posture d'humilité, de restauration avec Dieu, on peut être aussi des portails du camp d'en face. Mais Dieu a fait de nous des portails, c'est ça d'être sacrificateur, c'est d'amener la présence de Dieu là où nous sommes partout. Ça veut dire que partout où je suis, c'est potentiellement Bethel, c'est potentiellement la maison de... En fait, c'est une réalité. Mais pour que ça se manifeste concrètement, il faut qu'on soit conscient de ça. Si on n'est pas conscient, si on ne vit pas en accord avec cette réalité, eh bien, ça ne va pas porter le fruit que ça a le potentiel de porter. Et vraiment, je me suis senti aussi repris dans ça. En fait, ta piété personnelle, elle n'est pas que pour toi. Elle est pour le monde qui est autour de toi. Et que là où je suis... c'est un portail du ciel, c'est le lieu de Bethel, la maison de Dieu, là où Dieu veut manifester encore une fois sa vie. Et vraiment, c'est des choses qu'on a reçues depuis le début de l'Église, mais de l'entendre avec un nouveau langage, avec une nouvelle comme ça, lourdeur. Voilà. Et puis quand on voit ce qui se passe, nous on était un peu perché là-haut sur la montagne, mais en même temps d'un coup certains se sont mis à voir l'actualité qui se déchaînait sur dans les infos, et il y a une réalité, il y a une urgence, voilà, à vivre cela et être des portails du ciel dans ce monde où tellement de gens souffrent et ont besoin du ciel dans leur vie, ont besoin du Père dans leur vie. Amen. Voilà, on aurait plein d'autres choses encore à vous expliquer, mais on va finir encore en priant, et puis on va réfléchir là pour la meilleure moyen de vous donner un peu plus de contenu de ces deux jours dans cette famille Ariel. Merci Seigneur pour cette famille qui nous a donné, et merci Seigneur pour ce qu'il va faire au travers de nous dans ces prochains jours, mois, semaines. Amen. Amen. Seigneur, vraiment merci. Seigneur, je te prie que ce que je viens de dire, Seigneur, ce que tu as fait dans mon cœur, ce que tu as fait dans nos cœurs, Seigneur, puisse se multiplier, Seigneur, vraiment. Qu'on ne passe pas à autre chose, tu vois, c'est toujours particulier quand on vit des temps comme ça. Et après, on revient dans la réalité du quotidien, et il y a toujours ce décalage et ce... Mais Seigneur, le fait qu'on parle de ça ensemble aujourd'hui, ça nous rend aussi redevables les uns des autres, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour moi, pour ma famille, je te prie pour chacune des familles, chacun des individus représentés ici. Seigneur, qu'on puisse vraiment nous rendre à nouveau compte de notre appel en tant que roi, en tant que sacrificateur, de faire monter ce parfum jour et nuit. Pas seulement de temps en temps, Seigneur. Pas seulement dimanche matin, pas seulement 15 minutes par jour, Seigneur, mais jour et nuit, Seigneur. Nous sommes des adorateurs, Seigneur, nous sommes sacrificateurs, c'est notre nature, on ne peut pas faire autre chose. Parce que c'est notre nature, Seigneur, que nos vies soient un parfum d'adoration, Seigneur. Et Seigneur, là où il y aurait de la fausse, dire non, mais moi je ne suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas, de la fausse humilité qui viendrait, Seigneur, vraiment pardon, Seigneur. Qui tu es, qui je suis pour dire je ne suis pas digne? C'est toi qui as fait de moi un roi, un prêtre. Pardon, Seigneur, pour la fausse humilité qui peut venir. Seigneur, que là où on est chacun, on puisse venir ouvrir nos cœurs au Père, être guéri, être transformé de manière à pouvoir vivre notre appel. Notre appel. Seigneur, on s'est rassemblés aujourd'hui autour de la table, de la scène, ce repas avec Jésus, comme le peuple d'Israël était rassemblé autour du tabernacle. Ces 12 tribus qui étaient rassemblées, nous, aujourd'hui, c'est comme si nous étions ces 12 tribus. Autour de ce tabernacle, de la table, de la scène, Seigneur. Seigneur, qu'il y ait un tabernacle autour duquel on est dans nos maisons, qu'il y ait un tabernacle autour duquel on est dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Nous sommes des tabernacles, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Fais-nous cette grâce, Seigneur. On a besoin de toi pour toi. Merci parce que grâce à toi, Jésus, grâce à ton sacrifice parfait sur l'autel ultime, tout ça est possible, c'est même notre héritage. Aide-nous à nous en saisir, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dans le nom de Jésus.